Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute d'Écalade. Au sommaire de notre édition, grève cette matinée du 10 octobre devant les grilles de l'inspection académique de Villefranche des personnels d'accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire, AESH et AVS, dénonçant des conditions de travail, de formation et de salaire déplorables. Puis Michel Jambon, adjoint à la vie sportive de Villefranche, se félicite du nouveau centre sportif de foot Espace Condorcet sur le quartier de Bellini, un partenariat avec Sport dans la Ville, l'association de la région Aura. Et en conclusion, Arnas 2.0, festival art et numérique pour les initiés et les non-initiés au numérique. Découvrez le programme avec Carole Gentier, directrice adjointe du CCAB à l'initiative de l'événement. Calade, le journal. Bonne nouvelle, les abeilles sont plus rentables que les pesticides dans les champs de colza. Une bonne nouvelle de Célia Quilleret et Boris Allier pour France Inter. Les producteurs de colza sont prévenus. Mieux vaut utiliser des abeilles plutôt que des produits phytopharmaceutiques dans les parcelles. C'est plus rentable, selon une étude menée par des chercheurs de l'INRA et du CNRS, publiée dans la revue Proceedings of the Royal City, London Bee. Un producteur de colza qui veut optimiser ses rendements a deux stratégies, utiliser des pesticides ou avoir des abeilles. De 2013 à 2016, Vincent Bretagnol, directeur de recherche au CNRS, a étudié avec ses collègues de l'INRA plus de 300 parcelles de colza et de tournesol dans les Deux-Sèvres. Rendement, présence de pollinisateurs, utilisation de pesticides, revenus des agriculteurs. Les scientifiques ont tout noté pour comparer les deux méthodes. Les deux stratégies sont tout aussi efficaces. Mais l'étude démontre que du point de vue du revenu, la seule stratégie viable, c'est celle qui repose sur les abeilles. Selon l'étude, la pollinisation est donc plus efficace que les produits phytosanitaires pour améliorer les rendements. Si les abeilles sont très nombreuses, elles peuvent augmenter de 40% le rendement des parcelles, selon le chercheur. Une étude dont les résultats démontrent ainsi les bienfaits de l'agroécologie. Il faut malgré tout, en moyenne, 5 ans pour se convertir à l'agriculture biologique, dépourvue de pesticides ou à l'agroécologie. Pas bête l'abeille ! Grève cette matinée du 10 octobre dernier devant la grille de l'inspection académique de Villefranche, des personnels d'accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire dénonçant une rentrée déplorable des AESH et AVS, des conditions de travail, de formation et des salaires. Plusieurs d'entre elles portent témoignage à notre micro.
Donc en fait, depuis la loi de 2005, tout enfant porteur de handicap a le droit à une scolarité en milieu ordinaire. Donc il y a plein d'enfants qui sont arrivés dans les écoles qui n'avaient pas le droit d'y être avant. Et donc on a créé cette nouvelle mission parce que ces enfants avaient besoin d'un accompagnement particulier.
Voilà, donc déjà nous avons eu dans la semaine, durant la semaine dernière, un courrier de l'inspection nous disant qu'il fallait déplacer une AVS de notre école, comme ça, du jour au lendemain, pour intervenir dans une autre école, alors que cette AVS allait laisser un enfant ou deux comme ça, sans personne à ses côtés. Donc là, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, on a des collègues aussi qui ont eu des problèmes avec leur salaire de septembre, qui viennent d'être payés à ce jour simplement, et d'autres pas.
Des collègues qui sont au travail sans contrat de travail pour le moment.
Alors, depuis la rentrée ?
Oui, qui n'ont pas encore signé leur contrat. On a mis en place ce qu'on appelle des PIAL.
Pôle inclusif accompagnant localisé.
En fait, c'est des personnes qui coordonnent un petit peu sur un territoire où vont être en poste les AESH ou AVS. On peut les appeler les deux. Et donc, en fait, ils sont un peu dans une logique de rentabilité de notre temps de travail et de nos horaires. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'à un moment donné, on accompagne un enfant dans une école et qu'on peut nous dire « Bah oui, mais en fait, il y a des besoins dans cette école, donc vous partez dans une autre école. » Sauf que ça, c'est sans tenir compte des heures d'accompagnement qui sont affectés par la maison des personnes handicapées. La maison des personnes handicapées, elle étudie les dossiers Et elle dit, tel enfant a besoin de tant d'heures d'accompagnement. Les PIAL se permettent de passer outre ces demandes de la maison des personnes handicapées. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, c'est au détriment des accompagnements et des enfants. Au départ, on était sur un accompagnant pour un enfant. Puis, on s'est mis à nous demander de mutualiser. Donc, plus, on n'a plus un enfant, mais on peut en avoir deux ou trois. Donc, c'est pareil. Comment voulez-vous accompagner? Ils n'ont pas les mêmes problématiques. Et là, cette collègue, alors qu'elle accompagne un enfant sur l'école Camus, il y a des besoins, soi-disant, plus importants dans une autre école. Donc là, on lui demandait carrément de changer d'école.
Ce qui veut dire un petit peu de déstabilisation pour les enfants, parce que...
Oui, voilà, donc laisser un enfant comme ça du jour au lendemain, dont on s'occupe depuis plusieurs mois, même avoir plusieurs années, voilà, cet enfant, déjà, qui a des problèmes, voilà, on a encore davantage de retrouver une autre personne, comme ça, du jour au lendemain.
Voilà, donc vous êtes
enseignante à l'école Albert Camus et maman d'élève à l'école Albert Camus. J'ai mes deux filles dans l'école.
Très bien. Et vous soutenez aujourd'hui la mobilisation, hein,
voilà. Oui.
Peut-être l'expliquer pourquoi,
effectivement. Ben parce que franchement, elles sont d'un soutien extraordinaire en classe. On ne pourrait pas accueillir les enfants comme on les accueille à l'école sans la présence des AESH. Et puis, on ne les traite pas comme on devrait les traiter. Enfin, on parle d'humains, là. Elles sont nécessaires. Elles, voilà, quand on entend qu'elles n'ont pas de contrat de travail, qu'elles ont des diminutions de salaire, qu'elles ne sont pas payées dans les délais. Et elles sont des éléments clés de l'école.
Donc l'école inclusive, c'est une bonne chose, mais il faut du personnel derrière. C'est ce que vous dites, en fait, en tant qu'enseignante, en tous les cas, sur votre casquette d'enseignante. Hein.
Oui, il faut le faire correctement. C'est une bonne chose, mais il faut le faire correctement, avec des personnes formées correctement, rémunérées pour leur travail. Voilà. On a fait les choses un peu à la va-vite depuis 2005. Quoi. On s'est dit, allez, on accueille tous les enfants, quel que soit leur handicap, mais débrouillez-vous avec ce qu'on vous donne. Quoi. Bah, en tant que maman, bon, moi, mes enfants ne sont pas suivis, n'ont pas besoin de l'aide d'une AESH, mais je me mets à la place d'une maman à qui on a notifié pour son enfant, je ne sais pas, 10 heures d'aide, et à qui on va dire, bon, bah, désolé, à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus l'aide, parce que niveau comptable, dans telle école, on a besoin de la personne qui s'occupait de votre enfant. Moi, je serais révoltée.
Donc, autre souci, peut-être la rémunération, effectivement. Hein.
Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en contrat aidé jusqu'au 30 novembre. On me propose de signer un contrat d'AESH pour 3 ans, ce qui est très bien, hein, au niveau des 3 ans, au lieu d'un an renouvelable à 1 an. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. Par contre, au niveau du salaire, actuellement, je touche un salaire de 698 euros qui sera diminué à 623 euros pour le même nombre d'heures. Là, je ne suis pas d'accord.
Les revendications salariales, il y a les revendications une formation une reconnaissance vraiment de notre métier, parce qu'en fait, on arrive en poste sans formation. Pas tout le monde, mais de plus en plus, on arrive à obtenir 60 heures de formation, mais qui est une formation très généraliste sur ce que peut représenter notre mission et les différents handicaps. Mais dans la réalité, en fait, c'est vraiment une mission. On peut être confronté à des enfants qui sont très lourdement handicapés, psychiquement ou physiquement. Et donc, on n'est pas formé à la hauteur de notre mission. De reconnaissance, oui, tout ça, ça passe. On parle de reconnaissance. En fait, on peut avoir des contrats de 20 heures ou de 24 heures. 26 heures, 24 heures présence élève. Il arrive que, en fait, les demandes des AESH ne soient pas respectées sur le temps de travail qu'elles demandent, en fait. On leur impose. Donc, soit elles sont en dessous de ce qu'elles ont demandé, soit elles sont au-dessus. Enfin, voilà. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ah oui, bah, du coup, le gel des PIAL, c'est-à-dire ces personnes qui, à un moment donné, tentent de rentabiliser notre présence sur les écoles. Du coup, ça nous paraît pas possible. Enfin, pourquoi pas, mais qu'on le fasse de manière cohérente et humaine. C'est-à-dire qu'on peut pas, nous l'imposer. On peut pas nous enlever du nez. Dans notre contrat, il est indiqué que on se déplace en fonction des besoins. Mais on se déplace en fonction des besoins sur une année scolaire. Quand on est engagé dans un accompagnement, on peut pas du jour au lendemain nous dire quitter l'école, quitter l'enfant que vous accompagnez. Enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, on a quand même souvent l'impression que l'inclusion scolaire, c'est une belle idée dans les textes. Et puis dans la réalité, en fait,
manque de moyens.
on manque de moyens et du coup on ne reconnaît ni notre travail, ni on considère les enfants et les parents qu'on accompagne.
Vous avez fait une demande, je crois, à l'inspection académique d'être reçue, c'est ça, ce matin?
Oui, ce matin, oui.
Un refus, comment dirais-je, digne de l'inspection académique, hein, très froid, sans explication, rejeté, quoi.
Le traitement fait au personnel montre un mépris inacceptable pour la prise en charge du handicap qui ne peut se faire sans que les personnels qui en ont la charge soient reconnus, rémunérés correctement et formés. Tiré d'un communiqué des personnels d'accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire, AESH ou AVS, en grève la journée du 10 octobre dernier, à Villefranche. Michel Jambon, adjoint à la vie sportive de Villefranche, se félicite du nouveau centre sportif de foot, Espace Condorcet sur le quartier de Bellini, un partenariat avec Sport dans la Ville, l'association de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
On a eu la chance, il y a un an, d'entrer en pourparler avec Michael Chiemoni, qui est devant moi. Et il est vrai que ça a tellement bien avancé qu'un an après, on se retrouve avec ce merveilleux petit stade qui va profiter à toute cette jeunesse caladoise qui parfois manque de repères et qui va pouvoir, grâce à l'activité physique pratiquée sur l'intermédiaire du football, okay, amener tous ces petits jeunes de 6 ans jusqu'à un âge de la grande adolescence.
Et on les entend, ils
s'amusent. Et on les entend. Pour ceux qui décrocheraient parfois très jeunes au niveau scolaire et qui perdent un petit peu leurs repères scolaires et sociaux, eh bien, grâce aux entreprises qui contribuent justement à raccrocher tous ces petits jeunes, faire en sorte que socialement, eh bien, ils arrivent à sortir un petit peu de la malchance qu'ils ont eue de ne pas trouver leur voie dans ce qu'ils étaient. Tout naturellement proposé à toute cette jeunesse qu'elle a devant. Bien entendu, les chefs d'établissement connaissent les jeunes qui sont en décrochage, en lien tout ça avec les professeurs principaux des collèges et des lycées. Et tout ça, ça permet de rétablir un petit peu une justice à la fois sociale et puis surtout la justice bleu-blanc-rouge, c'est-à-dire égalité, fraternité et tout ce qui s'ensuit.
Moi, c'est Jean-Paul Douxa.
Vous êtes éducateur sportif?
Voilà. C'est pour Sport dans la Ville.
Sport dans la Ville?
Voilà. C'est une association qui prône le sport. Par le biais du sport, on amène des choses aux enfants, aux jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est très bien. Ça permet de leur apprendre un peu tout ce qui est discipline, tout ce qui est sportif, la convivialité, la collectivité.
Et se défouler aussi.
Avec des règles. Donc, obligatoirement, on est obligé de rajouter des choses avec.
Le centre sportif de foot Espace Condorcet sur le quartier de Bellini à Villefranche sera ouvert pour tous les jeunes les mercredis et samedis. Et pour conclure cette édition, Arnas 2.0, festival art et numérique pour les initiés et non initiés au numérique, les 18 et 19 octobre prochains. Découvrez le programme de la 5e édition, c'est tout de suite avec Carole Gentier, directrice adjointe du CCAB à l'initiative de l'événement.
Alors cette année, pour la journée du samedi, on est parti sur le thème « Jouons avec le numérique ». Il y a eu des années où on avait travaillé plus en musique, et là on est parti vraiment sur le thème du jeu. Donc on est parti sur les robots, on est parti sur les jeux vidéo, on est parti également sur quelque chose de tout nouveau qui est la magie numérique. Alors la magie numérique, on veut en savoir un petit peu plus, on s'est dit parce que notre festival reste art et numérique, donc il nous fallait aussi un artiste, on a eu pas mal de spectacles sur les autres éditions où le numérique était sur scène, et là c'est un magicien qui passera à travers le public et qui travaillera avec son iPhone, son iPad, mais aussi le vôtre. Alors, il est possible que le vôtre disparaisse, se retrouve dans sa poche, qu'il craque votre code, qu'il vous sorte votre carte bleue à l'intérieur. Voilà, tout est à découvrir avec Yann Roulet, qui sera avec nous tout le samedi après-midi, et puis qui fera du close-up dans les files d'attente. On a aussi un très joli compagnonnage avec l'école Émile Cole depuis le début. Chaque année, on reçoit des étudiants de 5e année qui viennent avec un projet nouveau. Alors, cette année, ils viennent avec tester les jeux vidéo de demain. Donc, ce sont les élèves qui mettront des jeux vidéo sur le marché prochainement, qui sont en cours d'élaboration. Ils les amènent pour jouer avec le public et prendre en compte tout ce que va dire le public, c'est-à-dire est-ce que le jeu est intéressant, est-ce qu'il ne l'est pas, pourquoi, selon une grille, on va dire, qu'ils vont fixer. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est le temps? Et ça nous expliquera aussi, ça nous permettra de voir sur le marché aujourd'hui quel type de jeux vidéo les peuvent fonctionner, les tendances et ce qui plaît. Et puis, l'autre envers du décor, ce sera également le rétro gaming à fond les manettes, où là, on va dépoussiérer les anciens jeux vidéo, et notamment avec l'arène Bomberman, qui est un jeu qui a plus été connu par les parents, et comme on aime bien nous travailler sur les générations, sur cette partie donc de l'espace, où il y aura Bomberman, ça va être les parents qui vont initier les enfants et les adolescents à Bomberman.
Arnas 2.0 Arrêt numérique, festival le vendredi 18 et samedi 19 octobre à Arnas. Demandez le programme, ccab.fr. I can't lose. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Hey, souriez, c'est vendredi.